Dieu vous bénisse abondamment. On va tourner vers un passage dans le Nouveau Testament. C'est l'acte 5, verset 17 jusqu'à 33. Donc, acte 5, 17 jusqu'à 33. Et on peut mettre comme titre pour notre méditation sur la prédication, l'Église en mission, encore une fois, l'audace dans la vérité. La dernière fois, on a parlé beaucoup, je n'étais pas là, mais j'ai entendu des bonnes nouvelles de la dernière rencontre qu'on a eue ici. De l'œuvre de Dieu parmi nous, à travers ici le corps local, mais aussi à travers les missions. Hein? Il y avait des témoignages, etc., etc. Donc, on va continuer ce thème en parlant de la mission encore une fois, en se concentrant sur la première communauté et la façon dont elle a évangélisé et grandi sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. Et j'espère que le Seigneur, par cet exemple, peut aussi nous donner une audacité pour la vérité, pour la mission, pour proclamer la vérité. Malgré les forces qui nous entourent, qui sont contre notre Seigneur et contre sa parole. Mais d'abord, lisons les Écritures. Alors, 17, acte 7, 5, excusez-moi. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les usiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Donc, ils ne savaient pas quoi faire, quoi dire, quoi penser. Quelqu'un vient leur dire, « Voici les gens que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les usiers et les conduisit sans violence parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. » Fin de la citation de la Bible. Alors, comme quelques mots, et d'abord quelques mots d'introduction. Et je fais toujours des introductions par rapport au contexte. C'est toujours contexte et texte. C'est un pattern déjà. Alors, nous pouvons lire au verset 12 jusqu'à 16 que l'Église croissait rapidement par la parole et par les enseignements des apôtres. C'est déjà un grand miracle que Dieu a fait grandir son Église par la parole et par les enseignements des apôtres. Deuxièmement, nous pouvons présumer à partir du contexte que le nombre des chrétiens primitifs croissait principalement au moyen des Juifs convertis. C'était le contexte aussi de ce passage. Au moyen des Juifs qui commencèrent à croire que Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu et le Messie promis de l'Ancien Testament. Troisièmement, et d'une façon très particulière, des Juifs parmi ceux qui continuaient à adorer où? C'est quoi le contexte? Bien sûr, c'est Israël, mais encore plus spécifiquement, c'était quoi? Le lieu. C'était quoi le lieu? Le temple. En effet, lorsque vous tournez au texte, cela est davantage prouvé, car qui s'opposait aux premiers apôtres? Dans ce cas-là, ils n'étaient pas des pharisiens. Les pharisiens étaient plus dans la campagne, dans les synagogues. Mais les sacrificateurs, le grand sacrificateur, se trouvait où? Dans le temple. Et c'était eux qui avaient peur de perdre le contrôle, avaient peur de perdre leur influence sur les gens qui venaient au temple. Et à cause de la prédication et de l'enseignement des apôtres, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit, bien entendu. Donc, ça, c'est le contexte encore plus précis. Alors, les sacrificateurs, ils étaient en colère, ils étaient fâchés et remplis de jalousie, c'est dit dans le texte. Et ils portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. OK, donc, c'est le contexte du texte, le contexte historique, Israël, le contexte plus spécifique, c'est le temple, auprès des sacrificateurs qui les a mis dans la prison. Alors, quelques points importants à partir de ce contexte-là. D'abord, et je vais le souligner cette fois-ci et ce matin un peu plus que normal, est-ce que les apôtres, est-ce qu'eux, ils ont commencé une nouvelle église? Est-ce qu'ils voulaient commencer une nouvelle église? Non. Parce que, et c'était facile de le faire, de se reculer dans un petit coin et de commencer une petite église chez eux. Mais ils étaient où chaque matin? Au temple, aux places publiques. Qu'est-ce qu'ils voulaient donc? Que le temple, les sacrificateurs, Israël se convertissaient. Donc, ils n'ont pas commencé une nouvelle église tout de suite, mais ils allèrent aussi au temple chaque jour et ils enseignèrent et prêchèrent là. Alors, en d'autres mots, et c'est parfois un peu difficile pour les évangéliques de comprendre, mais ils ne voyaient pas la séparation comme une solution. D'abord, est-ce que vous comprenez? Ils voulaient plutôt quoi? Une continuation, mais à l'intérieur et par une réforme. OK? À l'intérieur des établissements qui étaient déjà mis en place. Au temple. Et ils étaient prêts même à souffrir pour cela. Verset 31, c'est vraiment évident. Pour donner à Israël, la repentance et le pardon des péchés. Leur but ici, c'était d'abord les gens au temple et Israël spécifiquement. OK? Et pour faire un parallèle dans l'histoire, ce que nous voyons les apôtres faire ici, c'est ce que les réformateurs voulaient aussi faire. On parle de Luther, on parle de Calvin. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Rester, autant que possible, à l'intérieur de l'Église catholique pour faire réformer l'Église catholique. Il prêchait au public, il prêchait aux catholiques, hein, aux catholiques romains dans leur époque. Réformer l'Église existant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il ne pensait pas non plus tout de suite qu'une séparation était une solution, de commencer une nouvelle Église. C'est un principe de la réforme, de vouloir réformer l'Église par l'intérieur vers l'extérieur. Luther et Calvin donc désiraient, à l'époque de la réforme, ne pas tourner le dos, ne pas commencer une nouvelle Église, mais réformer l'Église catholique romaine de l'intérieur vers l'extérieur, même s'ils devraient en souffrir. Hein? C'est évident, publiquement. Ils cherchaient la continuité et l'unité malgré les différences. Calvin a écrit qu'il aurait, et je cite, « traversé 10 mers pour contribuer à cette unité de l'Église ». Fin de la citation. Donc, en autre mot, ils n'étaient pas des révolutionnaires, mais des réformateurs. Les révolutionnaires veulent toujours tourner les choses vers le bas ou upside down. Hein? Non, les réformateurs voulaient ramener et amener les gens à la parole de Dieu pour faire en sorte aussi une réforme. Et je pense que cela ne devrait pas être encore une de nos préoccupations? Que l'Église catholique, encore, je le dis avec un petit de peur, je connais aussi l'histoire de certains d'entre vous qui ont vécu des mauvaises choses, hein, à l'intérieur de l'Église, donc il y avait tout à fait raison de quitter l'Église catholique, absolument, absolument, absolument. L'abus est aussi répandu, donc il y a plein de raisons pour quitter une église, il y avait des raisons. Mais juste en tant qu'esprit, que l'Église soit réformée. Et c'est une des raisons pour laquelle on a accepté une confession qui date, quelle année? Ouh, c'est la musique dans nos oreilles, hein? Pasteur Clermont, oui? 1689, c'est comme... en tout cas. Mais c'est important. Même à Montjoly, ils ont commencé, ils continuent de faire et donner des enseignements sur chaque article de la confession. Hein? Chaque... Ça se fait 2 ans sans arrêt, hein? Continuel. Chaque dimanche matin, il y avait 40 de personnes. Chaque matin, ils traversent à travers chaque article. C'est pasteur... Pasteur Luc. Donc là, il veut réformer l'église de Pasteur Clermont. Hein? Avant qu'il prêche, il faut qu'il y ait une réforme, non? Non, OK, il y a plus d'unité que de la diversité chez vous. OK, c'est bon. C'est ce qu'on veut aussi. C'est une ancienne affaire qui nous parle encore aujourd'hui pour faire réformer l'église. Et peut-être... et je vais citer un petit citation de Pasteur Dieff. Parce que parfois, peut-être, c'est un chant oublié par nous et pas parmi les évangéliques, l'Église catholique, je dirais. Alors, il nous a envoyé un courriel, Pasteur Dieff, et je lui ai demandé, pourrais-je partager la partie suivante de ton courriel avec l'Église ce dimanche? Et il a tout de suite répondu, oui, avec plaisir. Alors, si tu peux montrer l'image. Voilà. Est-ce que vous avez vu cette image? Est-ce que vous trouvez Charlie ou Pasteur Dieff, excusez-moi? Où est Charlie? Non. Pasteur Dieff est là aussi. Vous voyez, et c'est avec les chevaliers de Colombe, OK? The Knights of Columbus. Il est un peu sur la glace ici, un peu glissant, mais il y a un tapis, donc ça aide. Et sa femme aussi était là. Hein? Waouh, les deux étaient là. Non? Carole, là? Oui? Alors, je vais lire son message. Rénal Leblanc est celui qui a le micro. OK? C'est lui que j'ai baptisé l'an passé chez lui. Hein, ils étaient là aussi. Il m'a présenté aussi deux autres de ses amis jeudi passé. Donc, c'est récent. Et l'un d'eux, après avoir parlé avec lui un bon 2 heures, pas de problème pour Pasteur Jeff, il m'a demandé de le baptiser aussi. Quelle merveille! Quelle merveille! Alors, il continue. Il se passe quelque chose de vraiment spécial au milieu d'eux. Ils veulent une véritable vie de croyant en Jésus-Christ, seul et avec une foi nourrie des Écritures. Alors, ils sont très déçus de leurs institutions catholiques. On parle d'un contexte catholique pur et dur, hein? The Knights of Columbus peut avoir plus que ça, n'est-ce pas? Voilà, donc, et ils sont à la recherche des églises qui enseignent non pas la tradition, mais la parole de Dieu. Je leur ai suggéré de suivre des cours à la fac en auditeur libre afin d'avoir une foi bien fondée dans une bonne interprétation des textes bibliques. J'ai dû sauter cette phrase, mais je ne voulais pas. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel réveil serait possible. Que c'est jusqu'à où cela pourra nous mener. Quelle merveille! Alors, continuons à prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et quel est ce moisson? L'Église catholique! Les gens qui se trouvent dans les campagnes, qui ont besoin, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas l'enseignement biblique parmi eux, qui cherchent la justice de Dieu. C'est ce qu'il a vécu. C'est comme un clin d'œil de Dieu. J'ai parlé avec pasteur avant le culte et dit, ils ont vécu la même chose en Afrique et maintenant ils se trouvent en vacances, ils veulent se reculer un peu, mais Dieu ne le lâche pas. Donc Dieu le poursuit et il prêche là-bas, il baptise les gens à l'intérieur d'un contexte très québécois. Donc c'est un autre clin d'œil de Dieu, n'est-ce pas, frère? Amen? Amen. Alors, et finalement, et ça nous donne aussi une idée d'une continuité. Alors, c'est une recommandation à vous, une exhortation à vous. Et si l'Église pouvait prier avec toutes nos églises de la Bible parle en Afrique, en Haïti et au Québec pour une vraie réveil et une vraie réforme au Québec, ce sont les mots de Pasteur Jeff. Ce serait vraiment une bénédiction, surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Fin de la citation. Exactement. Aussi, ici au Québec, qu'il y a une réforme qui s'installe, un réveil, c'est possible, on le voit. Dieu est beaucoup plus puissant que les institutions quelconques. Alors, fin de la citation. Mais, en revenant au texte, il y aura toujours une opposition, comme dans le texte, hein? Parce que s'il n'y a pas une attitude pécheresse, il n'y a pas une attitude de l'humilité dans l'Église, qu'est-ce que va arriver? On va avoir peur de perdre le contrôle, de perdre notre influence sur les gens dans l'Église. Une réforme déstabilise. Ça touche les racines de notre existence. Et les gens sont résistants à une réforme. Ils veulent toujours se garder dans leur zone de confort. Hein? Mais la parole de Dieu nous déstabilise. Et donc, c'est arrivé avec les souverains sacrificateurs. Ils commencent à devenir jaloux, comme nous le voyons avec le souverain sacrificateur et les sadduciens. Et ils commencent à retarder le travail de ceux qui sont bénis, hein, par la présence du Saint-Esprit. Donc, il faut s'attendre quoi? Aux les gens contraires qui vont lutter contre la parole de Dieu. Et cela aussi, vous le voyez arriver maintes et maintes fois. Cela est arrivé aux réformateurs et cela arrive aujourd'hui. La jalousie, et j'insiste là-dessus, frères et sœurs, la jalousie et la recherche du contrôle sont l'un des pires ennemis de l'Église. La jalousie et le soif du contrôle sont l'un des deux les pires ennemis de l'Église. Vraiment. Jalousie parmi les pasteurs, surtout parfois, parmi le leadership, et aussi de ne pas vouloir perdre le contrôle. Nous ne sommes pas en contrôle de l'Église, c'est lui qui est en contrôle. On doit disparaître, les pasteurs, pour que Christ soit au centre, lui seul. Alors, les résultats. Dans notre contexte, le souverain sacrificateur et son conseil ont jeté les apôtres dans la prison publique. Luther fut excommunié à la fin, il fut renvoyé de l'Église. Alors, la situation. Donc, c'était qu'une introduction. Ça va pour l'instant? On prie pour que Dieu nous donne, bien sûr, le temps pour terminer. La situation et la réponse à la situation, les deux points suivants. Donc, allons un peu plus profondément dans notre texte. Les Sadducéens étaient qui? Il y avait deux choses à souligner. Parce qu'il est important de noter que la Bible parle d'eux ici, même du souverain sacrificateur, comme faisant partie de la secte des Sadducéens. Qui étaient-ils? Les Sadducéens. Les Sadducéens étaient des gens libéraux, on peut dire, très influencés par les pensées libérales. Ils étaient devenus donc libéraux dans leurs enseignements et leurs pratique, incluant le souverain sacrificateur, Anne et Caïphe. OK? Alors, même le souverain sacrificateur qui gouvernait était devenu l'un des Sadducéens maintenant, et donc tout le conseil qui gouvernait le temple d'adoration était devenu libéral. Deux points. OK, rapidement. D'abord, les Sadducéens étaient devenus des collaborateurs de qui? De Rome, OK? Pour avoir plus de pouvoir sur le peuple, ils ont fait une alliance avec l'ennemi, hein? La politique de l'époque, la bête, on peut dire, la bête. D'abord, donc ils sont devenus des traîtres de leur propre peuple. Ils ont fait une alliance avec l'ennemi pour le pouvoir. Et deuxièmement, et religieusement, ils étaient libéraux, tout comme beaucoup de théologiens libéraux d'aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'ils ne croyaient pas? Ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Du moins, le fait qu'on pouvait le prouver à partir des Écritures. Ils étaient des sceptiques, donc. Si ce n'est pas complet incroyant en la réalité surnaturelle, OK? Tels des anges et des autres esprits, incluant probablement le diable. OK? Donc, au lieu de cela, ils se concentraient sur cette vie de santé et de prospérité et en ligne avec la politique de leur époque. Deux choses, je vais mettre un peu l'emphase là-dessus. Qu'est-ce que. Les deux choses sont souvent présents aussi dans nos églises. Les leaders vont faire une alliance avec la politique, hein, pour le pouvoir, pour garder le pouvoir, et en même temps, ils vont diminuer ou trahir le message de la Bible. OK? Pour encore garder le pouvoir. OK? Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Souvent, aussi, nos églises d'aujourd'hui, les églises libérales, ont fait une alliance avec le monde. Et ils ont jeté la Bible en dehors de l'Église comme fondement de leur foi et de leur pratique. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Et donc, dans beaucoup de ces églises et dans le monde en général, à cause de l'Église aussi, tout est devenu horizontal. Politique et prospérité. L'Église est coupée du ciel, on peut dire le transcendant ou le transcendantal, et ils vont se concentrer sur le moi, la prospérité de moi et de ma santé, etc., etc. Il n'y a rien, donc, de nouveau sous le soleil. Et à l'intérieur de cela, bien sûr, les disciples étaient pour prêcher, pour continuer de prêcher l'Évangile. Il allait au temple pour prier, pour prêcher, avec le désir que les gens entendraient et se réformeraient de l'intérieur à l'extérieur. Mais l'animosité était profonde, et donc ils les lièrent encore une fois et ils les jetèrent dans la prison. OK? La situation. Deuxième point, déjà. La réponse des disciples. Et là, c'est aussi, et on va rester là-dessus un peu plus longuement. Parce que je dis la réponse des disciples. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la chose la plus remarquable dans ce texte, c'est quoi? Pas l'action des disciples. Et bien sûr, ça, c'est un effet de quelque chose. Mais qu'est-ce qui était le plus remarquable ou miraculeuse même dans cette situation-là? Pas la réponse des disciples, mais la réponse de Dieu. Il faut s'attendre à Dieu, d'abord et surtout, en proclamant l'Évangile. Donc, en nous voyant, Dieu lui-même a pris leur cause et les a défendus afin que sa parole, sa vérité continue d'être proclamée. Qu'est-ce que nous lisons? Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Wow! Et il les sortit et il leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. C'est remarquable. Donc, ils n'avaient pas besoin de se défendre eux-mêmes. Un peu plus tard, on va voir comment ils ont quand même fait une défense de leur foi. Mais cette fois-ci, et ça nous affirme aussi peut-être dans notre foi, en proclamant l'Évangile, personnellement et en tant qu'Église, que Dieu peut intervenir. Il peut nous libérer pour qu'on puisse continuer ce qu'il nous a donné à faire, la mission, la proclamation de l'Évangile. On s'attend à Dieu. Et ce n'est pas vrai que Dieu intervient toujours. Parfois, il nous laisse dans la prison et il nous laisse mourir. C'est aussi bon. C'est plus bon pour le nous que pour l'Église, n'est-ce pas? Les croyants ils sont très persécutés, ils sont en train de mourir pour la foi aussi. Donc, on ne peut pas s'attendre au miracle. Mais quand le travail n'est pas encore fini, Dieu va intervenir. Il est le Dieu des dieux. Donc, ange du Seigneur, ouvrit les portes de la prison. Et une autre chose, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Il les a envoyés où encore? Dans le temple, aux places publiques. Il ne dit pas, oh, prends une petite pause, recule pas, recule et trouve-toi dans un petit coin pour... Non, non, il dit, allez, allez-y, continuez, proclamez l'Évangile, restez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, comme réponse, après avoir entendu cela, ils entrèrent le soir, parce qu'ils étaient trop fatigués pour le faire plus tôt, le matin. Notre réponse aurait été quoi? Ah, moi, je suis un peu... OK, never mind. Dès le matin, ils avaient... Quelle était la résistance à cette parole? Mais ils ont donc répondu à cette exhortation dès le matin, tôt le prochain matin. Et au milieu du libéralisme et l'animosité, ils continuèrent à enseigner. Toutes les forces de l'enfer ne pouvaient arrêter la proclamation de ce message. Rien. C'est ce qu'on voit. Et Dieu était parmi eux. Donc, une autre affirmation, une autre exhortation pour nous. Ne soyons pas affaiblis ou découragés par l'opposition. Soit de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Église. Continuons dans la voie dans laquelle le Seigneur nous a appelés ou qu'il vous est appelé afin de proclamer l'Évangile. Et ça peut être dans chaque domaine de votre propre vie, en tant que parent, en tant qu'homme d'affaires, à n'importe qui, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant que garbage picker-upper. Est-ce que vous comprenez? Par, comme des miens. On ne peut pas aller plus bas. Oh, excusez-moi. Une petite histoire. J'ai commencé à travailler avec lui au début de ma présence ici à la Bible parle. Donc, j'ai vu les toilettes de l'intérieur vers l'extérieur. Et alors, Dieu m'a... On est ensemble encore, par la grâce de Dieu. Alors, au milieu de ce monde, au milieu du libéralisme, du sécuralisme, au milieu des forces de ténèbres qui s'opposent à tous côtés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va poursuivre leur histoire. Et ils retournèrent directement au temple, le matin. Voilà leur façon d'aller en mission. Étant audacieux dans la vérité. Et le Seigneur a béni cela. Nous sommes aussi appelés à faire le même. Alors, encore une fois, perplexes à leur sujet, se demandaient donc ce qu'il adviendrait de cette affaire, donc les sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ordonnèrent aux soldats, une fois de plus, de capturer les disciples pour les mettre de venir devant le conseil. Mais cette fois-ci, un peu plus discrètement, parce qu'ils avaient peur du peuple, de ne pas être lapidés par le peuple, parce que le peuple était plus proche des disciples. Alors, la réponse. La réponse des disciples. Je vais terminer avec cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince, Seigneur et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses. D'abord, pauvre petit. D'abord, le combat est d'abord et surtout quoi? Spirituel. Le combat est spirituel. Il y a deux royaumes. Hein? Le royaume de Satan, un rebelle déjà jugé, à 1 Pierre 5, verset 8. Il fait beaucoup de bruit, hein? Votre adversaire, le diable, lion rôde comme lion rugissant pour chercher, pour dévorer. Et le Christ, hein? On a célébré le Christ en tant qu'enfant, mais car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelle son nom, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et un paix sans fin au trône de David et son royaume. J'avais beaucoup de choses à dire, mais juste pour mettre au contexte, notre contexte est le même. Il y a deux royaumes qui se combattent, le royaume de Satan et le royaume de Christ. Il n'y a pas d'autre royaume. On se trouve dans ce même contexte. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait dans ce contexte-là? Notez qu'ils ne furent pas diplomatiques dans leur façon de le faire. Hein? Ils n'entamèrent pas un dialogue en disant « Bien, peut-être vous avez un peu de vérité et nous aussi. » Ils n'ont pas rentré dans un dialogue pour discuter. Peut-être ils avaient raison, les libéraux. On peut dire beaucoup de choses par rapport à cela, mais ils n'ont pas fait un compromis. Deuxièmement, non, il les a confrontés. Ils les confrontèrent avec la vérité. Et ils ont dit que ce n'était pas une nouvelle vérité, hein, mais une vérité qu'ils auraient dû connaître, mais qu'ils rejetaient maintenant. Parce qu'ils ont commencé avec quoi? Une vérité qui venait du Père, du Dieu et de leur Père. Ça, c'est aussi intéressant. Ils n'ont pas en train de dire que c'est une nouvelle religion. Non, non, non. C'est la continuation de ce que vos pères ont déjà cru. Et c'est maintenant accompli en Jésus-Christ. On proclame le même message, encore la continuité plutôt que la discontinuité, dans le temple, dans leur contexte. Très important, Abraham, Isaac et Jacob, leur père. Trois, mais ils allèrent plus loin. Non seulement ils les confrontèrent avec la vérité, mais ils les ont même appelés à la repentance. Ces autorités et souverains haut placés. Vous avez tué la vérité. Ce n'est pas une façon diplomatique à dire, non? C'est vous qui ont tué le Seigneur en le clouant au bois. Donc, il ne s'agit pas d'abord d'un dialogue ou d'un compromis, mais simplement d'un appel à la responsabilité, à la repentance et à la foi dans le pardon de péché. Quatrièmement, la vérité de l'Évangile ne connaît pas et n'est pas intéressée par la rectitude politique ou d'être politiquement correct. La vérité de l'Évangile ne connaît pas et n'est pas intéressée par la paix et l'unité sans vérité. Sans la vérité. Parce que c'est bien clair aussi. Et finalement, je vais terminer avec ça. Pierre lui-même sait qu'il a un Seigneur et Sauveur à qui il doit rendre compte. Ça, c'est important. Celui qui est exalté, assis à la droite du Père, c'est à lui qu'il fait appel. Et c'est devant sa cour de jugement qu'il appelle ce souverain sacrificateur et ses sadduciens aussi, en fin du compte. Il dit quoi? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince, seigneur et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Donc, il n'avait pas peur de les demander, exhorter, vraiment à la repentance et à la vraie foi en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, la mission, j'espère que Dieu va nous donner cette même attitude, cette même audacité comme des disciples. À l'intérieur peut-être d'un monde qui est devenu complètement différent. sécuralisé, où tout est devenu presque un jeu de pouvoir, mais restez ferme et fidèle à la parole de Dieu. Restez fidèle parce que Dieu est fidèle. Ne dérogeons donc pas des anciens chemins marqués par les pères de la réforme, qui se sont tenus debout contre les mensonges de l'Église, afin de la réformer selon la parole de Dieu. Et encore une fois, un encouragement de notre pasteur Jeff. Il est capable de rentrer même à l'intérieur des Knights of Columbus. Incroyable, non? Knights of Columbus, ils sont rien pour la parole de Dieu, contre la parole de Dieu. Et ils ont soif de cette parole. N'ayons pas peur de la sécularité qui nous entoure, qui ne baigne aussi dans rien d'autre que les mensonges provenant du diable, des illusions de vérité. Dieu est souverain et la parole de Dieu demeurera pour toujours. Et on peut compter sur lui. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et il est sorti en leur et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Même si vous devez souffrir à cause de son nom, réjouissez-vous et persévérez, car nous avons un prince au ciel à qui a été remis tout pouvoir et autorité dans le ciel et sur la terre. » Et qui appellera ses enfants à la maison un jour. Peut-être ça ne paraît pas encore aujourd'hui. C'est un royaume qui est caché, qui s'avance par la parole et par le Saint-Esprit, à travers la croix, à travers la souffrance. Mes frères et sœurs, un jour notre Seigneur va revenir. Il va rétablir son royaume ici sur la terre et la justice va régner ici sur la terre, d'un bout jusqu'à l'autre. Parce qu'il est notre Seigneur. Donc n'ayez pas peur, parce qu'il a déjà vaincu le diable. Le diable est un rebelle déjà jugé. Un rebelle déjà jugé. Et nous pouvons avancer par cette même parole. Vous savez, c'est quoi l'histoire de Pierre? C'était quoi son histoire, finalement? Est-ce qu'il était sauvé de la prison à la fin de sa vie? Non, il était crucifié. Mais il était probablement très heureux. Il ne voulait même pas être crucifié comme son sauveur. C'était trop honoré, trop honorable. Il était crucifié, la tradition a, upside down. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors qu'on puisse avancer et faire avancer le royaume de Dieu dans le même esprit pour le Québec. Vraiment aussi pour le Québec. Et pour le monde entier. Que Dieu Amen. Prions. Seigneur, quelle audacité. Ça vient de toi. Nous continuons de persévérer et de compter sur toi, Seigneur, qui peut nous délivrer ou pas, mais ce n'est pas le plus important. Tu es partout, tu agis et ton royaume s'avance malgré les obstacles, malgré les ennemis. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour où tu vas revenir pour rétablir toutes choses. Seigneur, c'est notre espérance. Un jour, nous allons être avec toi. Donne-nous cette audacité dans la vérité aussi auprès des autorités qu'on doit honorer, c'est sûr, mais pas au détriment de l'Évangile. Alors, Seigneur, accorde-nous ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.